Sortir avec Maxime Despomerleau.
Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à notre émission, nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui à l'émission, on discute danse, arts visuels et cinéma. Comment une déficience auditive peut inspirer une création en danse contemporaine? On souligne la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle avec une exposition à l'Écomusée du Vieux-Monde. Et avec la relâche scolaire qui est à nos portes, on vous propose une sortie cinéma familiale. Restez avec nous! Alors, rebonjour. Alors, notre première invitée en studio cette semaine, on se penche tout de suite sur la création en danse contemporaine. Elle a une feuille de route assez impressionnante, est établie dans le milieu montréalais et québécois depuis très longtemps. Madame Hélène Blackburn, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Ça fait vraiment plaisir.
Vous êtes chorégraphe et interprète. Vous travaillez, vous êtes la directrice artistique de la compagnie K-Public. Avant d'entrer plus loin sur votre prochaine création qui sera bientôt à l'affiche à la Place des Arts, présentez-nous votre compagnie.
Bon, K-Public est une compagnie de danse qui cette année a 27 ans, donc ça fait quand même un certain temps qu'on s'inscrit dans le paysage culturel montréalais. L'idée de départ était de regrouper des artistes autour d'une vision commune de la création et de l'objet chorégraphique. Je dirais que ça a pris quand même un certain temps entre les désirs qu'on a initialement et arriver à les mettre en œuvre, ça prend du temps, de la patience. Et là, on en est vraiment là. J'ai une très, très belle équipe autour de moi.
Et quels sont les éléments, justement, autour duquel vous vous regroupez?
Donc, d'abord, il y a toujours l'équipe artistique, puis il y a l'équipe technique et l'équipe administrative. Ce sont des équipes qui sont quand même très stables chez nous. Donc, les danseurs sont là pour plusieurs années, travaillent pratiquement à temps plein. Actuellement, on parle de 8 danseurs à la compagnie. Dépendant des propositions, il y a plus ou moins de danseurs. Les plus grosses propositions, c'est pour 8 danseurs. On a, qui m'accompagne dans toutes ces aventures-là, un maître de ballet, qui est en fait une ancienne danseuse qui a œuvré pour des compagnies classiques et contemporaines, qui s'appelle Francine Liboiron. Et avec ça, j'ai l'équipe de concepteurs qui m'accompagne et qui aussi, je suis très fidèle à mes gens, donc qui sont là depuis plusieurs années pour ce spectacle-là. Émilie Beaulieu pour l'éclairage et Martin Tétrault et Michael Slack. Martin Tétrault pour la relecture de la 9e de Beethoven. Mais ça fait déjà, je pense, 10 ans qu'on collabore ensemble au moins. Et Michael Slack qui est là pour les costumes. Puis ça se greffe une équipe technique qui nous suit en tournée. Et c'est ça, une équipe administrative. Donc, on parle quand même maintenant d'une quinzaine de personnes.
Et justement, vous venez de l'évoquer brièvement, la 9e symphonie de Beethoven, c'est un point de départ pour votre prochaine production, oui. 9, qui prend l'affiche à la Place des Arts le 9, 10 et 11 mars prochain. Mais aussi, une inspiration, c'est Kai Glover, un de vos danseurs.
Oui, en fait, Kai est avec nous depuis 5 ans. Et Kai est malentendant, c'est-à-dire que sans son implant cochléaire et sans l'appareillage qui vient avec, il serait sourd. C'est ça, il est arrivé à la compagnie comme ça, mais moi je dis tout le temps, les gens vont souvent nous dire « Ah, mon Dieu, t'es généreuse, tu fais de l'intégration ». Non, il était tout simplement le meilleur à l'audition. Je me dis non, moi je me sens pas du tout généreuse, peut-être presque opportuniste, parce que c'est un danseur de grand niveau, K-Public est dans le paysage québécois une grande compagnie, mais on a des moyens limités. Normalement, des danseurs de ce calibre-là, c'est plus difficile à recruter.
Mm-hmm. Et donc, vous vous êtes inspiré, c'est intéressant de faire ce parallèle avec justement votre danseur qui est la tête d'affiche, si on veut, du spectacle, et de la mettre en parallèle avec cette 9e symphonie de Beethoven, qui est sans doute sa pièce la plus connue. et qu'il a écrite en étant complètement sourd. Ouais.
En fait, ça faisait longtemps que je voulais travailler sur Beethoven, parce qu'en fait, ça a bercé mon enfance. Moi, j'étais la petite fille à la danse et mon frère était le garçon au piano. Puis donc, il jouait dans le répertoire. Il y avait plusieurs pièces, dont Fleur et Lys, qui est bien connue. Que presque tous les enfants qui apprennent le piano vont jouer. Donc, ça a bercé mon enfance. J'ai longtemps voulu approcher Beethoven, mais c'est pas un objet musical évident pour la danse, parce que ça n'a pas été conçu pour ça. C'est une musique d'une très, très grande puissance. Donc, en fait, c'est quand on travaille avec Kai depuis plusieurs années, puis quelque part, son intégration à la compagnie est tellement bien faite que ses difficultés auditives restent invisibles pour la plupart du public. Mm-hmm. Mais en même temps, elles sont présentes, surtout dans son quotidien, je dirais un peu dans le nôtre aussi. Mais après ça, bon, à travers ça, tu as les blessures des danseurs, il y a un parcours là, au niveau... Et c'est souvent... C'est ça, les danseurs ont l'air des héros, des super-humains, mais c'est ça qui porte en eux des stigmates, mm-hmm. qu'ils soient des accidents. Donc, j'avais le goût de réfléchir sur cette matière-là invisible et de lui donner corps. Puis c'était beaucoup à travers des discussions avec Kai, qui est peut-être le danseur où c'est le plus emblématique. Là, bon, naturellement, partant de sa condition, Beethoven s'est imposé naturellement.
Est-ce que j'ai pu voir quelques-unes de vos productions, dont celle de Suite curieuse, mm-hmm. Qui est le conte du Petit Chaperon Rouge, revisité. Je l'ai vu à la Biennale Cinéar l'automne dernier. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était l'intégration de la langue des signes pour commencer à raconter le conte, mais qui s'en allait dans tout le corps par la suite. Est-ce que c'est un élément qu'on retrouve aussi présent dans Neuf?
Oui, puis qui va plus loin. En fait, c'était notre première expérience. C'était une idée de Kai, parce qu'on cherche toujours un peu à... Quand on approche, par exemple, un conte comme ça, on essaie de le raconter sans avoir à le dire de manière littérale. Donc, ça, c'était la première expérience. Donc, on a voulu... Et là, on s'est rendu compte que ça enrichissait le matériel gestuel, mm-hmm. considérablement. Donc, on voulait aller plus loin dans l'expérience. Puis je pense que Neuf est le résultat là, de ce pas en avant.
De ce processus. Et c'est intéressant alors que, justement, la langue des signes fait beaucoup appel aux doigts, aux mm-hmm. mains, au visage, même les expressions, mm-hmm. le haut du buste. Alors là, ça se transmet aussi dans les jambes, ça se transmet dans le corps qui pivote, qui tourne.
Oui. Donc... moi, je dis que c'est, en fait, on fait comme des métaphores de langage. Mm-hmm. C'est pas... On ne signe pas. Je pense pas que quelqu'un va... Bon, je pense que quelqu'un qui connaît bien la langue des signes du Québec va reconnaître certains signes, mais en même temps, c'est ça, on est plus près de la métaphore que du fait de parler avec les signes.
Mm-hmm. Et le spectacle est ouvert aux enfants, en fait, est accessible, donc à la famille et tout. C'est important pour vous d'aller rejoindre les jeunes avec la danse et particulièrement avec ce type de proposition?
En fait, quand j'ai débuté, je faisais des... à peu près tous les chorégraphes, je travaillais pour les adultes, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle le grand public. Peu à peu, je me suis mis, par biais de circonstances, à faire une première œuvre destinée pour les enfants, pour me rendre compte beaucoup d'adultes, ça venait de mon père quand il a vu après 15 ans ma première œuvre jeunesse, il m'a dit, il est sorti très très ému du spectacle en me disant, puis en me confessant à moitié, pour la première fois, je comprends ce que tu fais. Puis il a ajouté, tu sais, peut-être que je vais toujours être un enfant quand je vais voir de la danse. Mm-hmm. Partant de là, lentement, je te dirais, cette idée-là a travaillé en me disant, oui, peut-être qu'il y a possibilité d'élargir sans faire de compromis. Donc, d'élargir notre position par rapport au public, donc de devenir inclusif d'avoir, dans le sens d'avoir plusieurs générations qui regardent l'œuvre, qui assistent au spectacle, sans faire de compromis esthétiques pour autant. Donc, je pense que c'est la ligne des dernières années. Et ça fait un public extrêmement vivant, extrêmement vibrant.
Que vous allez rencontrer la semaine prochaine.
Oui.
Vous venez d'aborder quelque chose, justement, sur cette idée de ne pas faire de compromis. Devez-vous faire des compromis à travailler avec Kyle Glover, un danseur malentendant. On a souvent tendance à associer énormément la musique avec la danse, alors qu'on n'est pas obligé.
Mais
qu'est-ce que ça va modifier dans votre dynamique?
Je ne crois pas qu'on fait. Moi, je ne vois pas ça comme des compromis. Tu sais, on doit toujours faire des choix. Peu importe. Chorégraphier, c'est d'abord faire des choix. Donc, tu pars d'une proposition souvent très, très large que tu raffines, que tu ramènes à l'essentiel. Des fois pour des raisons monétaires. Moi, je dirais souvent pour des raisons esthétiques, pratiques pour la tournée. Tu sais, il y a beaucoup de paramètres. Travailler avec un danseur qui a la condition de caisse, ça veut dire que dans le travail, il y a des petites choses qu'il faut adapter. Par exemple, savoir que si on est à grande distance, dans un grand studio, il ne va pas entendre ce que je vais dire. Donc, il faut que les autres danseurs collaborent. Quand il y a des consignes de groupe qui sont données, s'assurer qu'il y ait compris. Donc, c'est ça, dans la manière des danseurs d'intervenir entre eux. Mais je trouve pas que je trouve que ça nous a ajouté sans rien enlever. Mais en même temps, ce qui est intéressant pour ce spectacle-là, pour la première fois, Kai a décidé de danser sans ses appareils. Donc, d'être dans la même position que Beethoven, d'être sourd. Puis un peu, je dirais de nous, quand on entend la musique, on entend toujours puis croyez-moi, quand on entend la même musique pendant plusieurs semaines, voire des mois, moi, j'entends toujours la même chose. Mais ce qui est fascinant avec Kai, c'est qu'il n'entend jamais la même chose. Mm-hmm. Puis, pour lui, il y a toujours oui, les accents de la musique sont là quand il y a ses appareils, mais il dit qu'il entend toujours quelque chose de différent. Puis j'aimais ça, cette capacité-là d'avoir une mélodie autre que la nôtre.
Et sans doute, d'un point de vue d'interprète, ça peut être très intéressant d'être encore plus dans l'instant présent et donc d'offrir vraiment une performance qui va être différente à chaque soir.
C'est vrai pour tous les interprètes, mais je dirais que c'est il y a comme une expansion de ses sens par la privation d'un de ses sens. Et ça, c'est vraiment intéressant ce que ça donne.
Merci beaucoup, Hélène Blackburn, chorégraphe, directrice artistique de Cap Public. Votre nouvelle création, Neuf, sera présentée à la 5e salle de la Place des Arts le 9, 10 et 11 mars prochain. Le 8 mars, une soirée spéciale de financement. Donc, on invite les gens. On va mettre des liens sur notre page Facebook et on vous souhaite un beau succès.
Je vous remercie beaucoup.
Alors, c'est Peter avec Loving Games, premier extrait de son album Noir Eden, qui fait suite à une version améliorée de La Tristesse, parue le 24 février, la semaine dernière. Il sera en spectacle au Club Soda le 8 mars dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Et on continue, on s'en va dans un autre registre. Donc, celui, on arrive de parler du corps, du mouvement avec Hélène Blackburn. On s'en va plutôt maintenant vers les arts visuels. Et j'ai en studio avec moi le directeur de l'Écomusée du Fiermonde, M. René Binette. Bonjour.
Bonjour.
Et Doriane Keller, des Compagnons de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'amener le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je vais vous demander de présenter brièvement vos organisations.
Oui, alors l'Écomusée du Fiermonde se définit comme un musée d'histoire et musée citoyen. Alors, donc, nous sommes sur la rue Amherst, tout près d'ici, en fait, près de la rue Ontario. Et donc, on présente des expositions qui racontent, je dirais, l'histoire du Montréal populaire et qui présentent des aspects méconnus de la culture montréalaise. Et donc, on travaille beaucoup avec des partenaires et avec des publics qui n'ont pas toujours accès au musée, et c'est un peu ce qui nous amène à un projet comme D'un œil différent.
Mm-hmm. D'un œil différent, justement, une exposition qui est, dont un des partenaires est les Compagnons de Montréal.
Oui, tout à fait. Donc, nous, on est un organisme communautaire qui offre des milieux de vie, d'apprentissage et d'inclusion pour les adultes vivant avec une différence intellectuelle, donc ce qui inclut déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique. Donc, c'est de l'intégration socio-professionnelle, c'est de le socio-communautaire, des ateliers socio-culturels, donc tout, en fait, ce qui peut inclure les personnes qui vivent avec une différence intellectuelle.
Mm-hmm. Et donc, D'un œil différent, une nouvelle version de l'exposition, parce que ça revient chaque année. Cette année, c'est du 8 au 19 mars. Ce n'est pas un hasard, les dates coïncident avec la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est D'un œil différent?
Bien, d'abord, c'est une exposition, effectivement, pendant 2 semaines à l'Écomusée. C'est gratuit, hein? Donc c'est l'accessibilité pour tous. Et une magnifique exposition en art visuel, je dirais toutes sortes de médiums, autant des photos que de la peinture ou de la gravure. En fait, il y a vraiment une très grande diversité. Et à chaque année, ce sont des œuvres différentes. Des œuvres, bien sûr, qui sont le résultat de travail qui a été fait par toutes ces personnes en lien avec des organismes qui travaillent avec des gens qui ont des déficiences intellectuelles. Et à cette exposition s'ajoute aussi toute une programmation d'activités.
Oui, tout à fait. Puis c'est aussi, donc, comme vous l'avez spécifié, le lancement de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Donc ça permet aussi, en fait, ces deux événements de contribuer à démystifier la déficience intellectuelle. C'est vraiment un moment de l'année où cette cause peut rayonner, en fait, où on peut vraiment se réunir, favoriser l'inclusion. Puis voilà, faire briller un petit peu la différence intellectuelle aux yeux du grand public.
Bon an, mal an, il y a autour de 200 œuvres qui sont exposées. Et on mentionnait qu'il y a plusieurs artistes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui participent, mais aussi aux côtés d'autres artistes donc qui ne vivent pas avec mm-hmm. différents troubles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le mentionne pas. Ce n'est pas écrit sur le petit carton à côté de l'œuvre. Donc, on est vraiment amené à seulement s'intéresser à la personne via son œuvre, via ce qu'elle produit.
Tout à fait. En fait, le but d'un œil différent, c'est l'inclusion prioritairement. Donc, c'est d'inclure, en fait, ces personnes-là dans un processus artistique, dans un processus social. C'est vraiment de l'inclusion socio-artistique. Pour justement éviter que ces personnes-là soient encore marginalisées, on a décidé d'inclure aussi des artistes qui n'ont pas de DI ou de troubles du spectre autistique, justement pour réunir tout le monde autour d'une thématique qui est l'art et pas d'une thématique qui est la différence intellectuelle ou le handicap.
Mm-hmm. Nous recevons beaucoup de commentaires des visiteurs. Et parmi les commentaires intéressants, ce sont des gens qui viennent nous dire « Mais on ne voit pas toujours la différence entre laquelle est une œuvre d'un artiste et laquelle est d'une personne qui a une déficience intellectuelle. » Et en fait, on pourrait dire que ce sont tous des gens qui ont des démarches artistiques. Certains sont des artistes professionnels, d'autres sont des artistes qui ont une déficience intellectuelle, mais ce sont toutes des démarches artistiques. Et ce qui est présenté est vraiment d'une qualité, je pense, qui est remarquable.
Doriane Keller, est-ce que le fait d'avoir l'appui justement de l'Écomusée du Fiermonde, qui est une salle reconnue, qui est un lieu culturel reconnu dans le milieu, Est-ce que ça ajoute à la crédibilité de cet événement-là, au rayonnement de cet événement-là, surtout que c'est un partenariat qui est là depuis quand même plusieurs années?
Ben oui, c'est vraiment un partenaire très important pour nous, parce que déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'Écomusée du Fiermonde, c'est une très belle salle d'exposition qui est un ancien bain public. C'est aussi un beau partenariat, puisque l'Écomusée du Fiermonde est sur le comité d'organisation de l'événement d'un œil différent. Ce qui est une très bonne chose aussi. Puis c'est aussi une mission qui nous rejoint un petit peu, puisque c'est un musée aussi qui est un musée citoyen. Mm-hmm. Donc ça rejoint un petit peu notre événement puis notre cause.
C'est pas la première fois que... Ben, en fait, même si cette expo d'un œil différent revient chaque année, vous aviez aussi fait une autre exposition en 2013, Chute, regardez la déficience autrement. Donc ce sont des... C'est des sujets, c'est des enjeux qui vous touchent, qui vous intéressent.
Oui, l'Écomusée, une de nos valeurs, c'est la démocratie culturelle. C'est un peu ça le rôle citoyen du musée. Donc, démocratie culturelle, c'est de reconnaître que chaque groupe a une culture et de faire de la place dans les présentations à ces différents groupes. Donc, bien sûr que nous, on est ouvert. Je disais tout à l'heure que l'exposition est gratuite. Bon, il y a une accessibilité par rapport aux visiteurs, mais pour nous, c'est aussi une accessibilité par rapport aux personnes qui exposent. Donc, nous faisons de la place au plus grand nombre possible de groupes différents. Alors oui, bien sûr, les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, le projet Chute, regardez, on est un peu dans la même veine, mais on a toutes sortes d'autres projets avec des personnes en alphabétisation, on pourrait nommer toutes sortes de publics avec qui on travaille. Pour nous, c'est une valeur qui est essentielle.
Mm-hmm. Et justement, on va s'y pencher un peu plus. Quelles sont les activités à ne pas manquer durant cette expo?
Alors, ben, il y a déjà l'événement Couleurs et brioches qui est devenu un classique d'un œil différent. C'est des artistes, en fait, qui vivent avec une DI, qui vont créer ensemble des œuvres. Le public peut rejoindre les artistes et créer avec ces personnes. Donc, ça permet aussi encore une fois, l'inclusion. Puis, c'est une œuvre qui va être offerte à la ville de Montréal pour le 375e. Donc voilà, ça va être une peinture, une impression sur bois. Mais je vous en dis pas plus et je vous invite à venir le 19 mars.
Tout à fait, oui, il faut garder le mystère.
Ben oui.
Et est-ce qu'il y avait d'autres choses?
Oui, il y a d'autres activités, effectivement.
Il faut choisir, par contre.
Oui, oui, ben c'est ça. C'est-à-dire que le mercredi 15 mars, un 5 à 7, alors donc une projection d'un film avec Claire Lamarche qui sera là pour... animer une discussion autour de ça. Il y a le lendemain le lancement d'une formation pour les personnes qui interviennent auprès des gens qui ont de la déficience intellectuelle. Et tout au long des deux semaines de présentation, il y a les visites scolaires, c'est-à-dire que les groupes scolaires, en prenant rendez-vous, bien sûr, on les accueille, il y a des rencontres avec des artistes, etc. Alors donc, il y a tout ce processus qui peut se faire. Mais indépendamment de cette belle programmation, je dirais, ben, l'exposition est là pendant les deux semaines et on peut venir la voir, bien sûr, on peut en profiter pendant les activités, mais on peut venir la voir au moment qui convient au public.
Merci beaucoup, René Binette de l'Écomusée du Fiermonde, Dorian Keller des Compagnons de Montréal. J'aime bien votre slogan qui est « Voir la différence autrement ». Ce sera l'occasion de le faire avec cette exposition « D'un œil différent » du 8 au 19 mars. On va mettre le lien sur notre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci. Merci à vous.
En juin, je passe le concours au Conservatoire national supérieur. Mon rêve d'y entrer.
Il y a combien de musiciens qui réussissent? Et aveugles, en plus?
Ça va s'aggraver, Marie.
Vas-y. Il va falloir que j'en parle à tes parents.
Il faut que je finisse l'année. J'ai pas le choix.
Victor, avec toi, on n'est jamais déçu. Zéro.
Je peux te faire réviser, t'aider à rattraper ton retard. Je sais pas.
T'as un ticket avec Marie.
Dis-moi, papa, maman, comment t'as su qu'elle était amoureuse de toi?
Je l'ai senti, c'est tout.
Tu veux dire qu'il y a pas de signe?
Mais plus souvent, elles ont les cheveux qui se restent d'un coup comme ça sur la tête.
Je peux jamais discuter sérieux avec toi.
Regarde Victor, ça c'est important. C'est dans le regard qu'on voit qu'une femme est amoureuse. C'est le premier chapitre d'une histoire d'amour.
À demain.
Attention! Le pire, c'est que t'as voulu te servir de moi. Et quand tu m'as pris la main, tu m'as pris pour quoi? Un labrador, hein? Ouf ouf!
Tu sais, l'amour sont les mensonges, c'est plus l'amour. Tu sais, si c'est important pour toi, lâche pas l'affaire.
Marie, est-ce que vous pouvez lire ce que je viens d'écrire au tableau?
C'est de pire en pire. J'irai jamais dans ton institut pour aveugles.
Sans toi, c'est moi qui serai aveugle.
C'est pas parce que vous êtes sûr qu'il faut priver les autres du talent de Marie. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place?
Alors, Alors, on vient d'entendre la bande-annonce du film Le cœur en braille, qui est en vedette au 20e Festival international du film pour enfants de Montréal, qui débute dans quelques jours, donc juste à temps pour la relâche scolaire. Alors, c'est un film de Michel Bougena, et donc il fait sa première nord-américaine la semaine prochaine, le 7 mars. Il sera aussi en diffusion le 9 mars. Le réalisateur sera présent pour rencontrer les jeunes et le public lors des projections. Le film sort aussi en salle le 10 mars en programmation régulière dans certains cinémas de Montréal, entre autres, peut-être dans d'autres régions aussi. On l'évoquait en début d'émission avec Madame Blackburn, ce désir de présenter des œuvres de qualité et signifiantes à un jeune public, c'est ce en quoi s'engage le Festival international du film pour enfants de Montréal. Il y a aussi deux autres films en compétition officielle à Hauteur d'homme et Grand Hôtel qui aborde la différence. À Hauteur d'homme, c'est plus au niveau d'un enfant qui rencontre son père qui est de petite taille. Et Grand Hôtel, on suit les aléas d'un jeune qui vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller en ligne sur fifem.com. Évidemment, il y a des forfaits famille, plusieurs activités d'animation. C'est notre petite suggestion sortie culturel pour terminer ce magazine sortir du vendredi 3 mars. Donc, on vous invite fortement à découvrir ce festival. Et si vous voulez d'autres suggestions, on va faire plusieurs publications Facebook au cours des prochaines semaines d'événements de sorties culturelles dont on ne parle pas nécessairement à l'émission. Mais donc, ce sont des invitations qu'on vous fait pour toujours aborder la culture sous un angle d'inclusion, d'accessibilité et de médiation culturelle. C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Donc, je remercie mes invités qui étaient avec moi, René Binette de l'Écomusée du Fiermonde, Doriane Keller des Compagnons de Montréal, et on avait commencé l'émission avec la chorégraphe Hélène Blackburn. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, ainsi que François Lemoine et Yannick Roberge qui ont composé le thème musical de l'émission. C'était Maxime Despomerleau. Je vous souhaite une semaine riche en découvertes culturelles et on se retrouve bientôt pour une autre édition de Sortir.